Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de vous être rendus à l'invitation de la station Ozone et librairie Mola pour que nous parlions ensemble ce soir avec Maria Majidi, auteure de ce livre dont je vais vous dire tout de suite, en long, en large et surtout en travers, parce que c'est plus intéressant, tout le bien qu'il convient d'en penser et toute l'urgence qu'il y a à le lire. C'est intitulé « Marx et la poupée ». Et tout de suite, je ne vais pas parler de Maria Majidi, mais je vais parler de son éditeur pour vous dire que parmi le plaisir qu'on retire de ce livre, il y a le fait que c'est un beau livre, c'est-à-dire qu'on l'a bien en main, si vous permettez. C'est un lecteur assez important qui a l'occasion de soupeser la bête assez souvent chaque jour, mais ça ne me surprend pas du nouvel Attila, donc l'éditeur du livre, qui fait quelques-uns parmi les plus beaux livres, les plus beaux objets artistiques de la littérature, sans que ça nuise pour autant au confort de lecture, ce qui est parfois le péché mignon des éditeurs trop graphiques. Voilà, ce compliment qui n'est pas d'usage étant fait, je suis doublement plein de gratitude envers la librairie de m'avoir permis de faire cette rencontre. C'est une vraie rencontre, c'est une vraie voix, et je suis persuadé que ce n'est pas, comme on dit en bon français, un one-shot, mais que c'est le prémisse à une vraie carrière littéraire qui s'ouvre à Maria Majidi. Alors moi, on m'a appris, quand j'ai commencé à faire du journalisme, à se méfier comme de la peste de plein de choses, des phrases longues... et des adjectifs. Alors j'ai été voir un peu ce que mes confrères pensaient de Maria Majidi, mes confrères qui avaient eu plus de préscience que moi et qui avaient écrit dessus. Alors je vous livre ça. Profond, tendre, léger, grave, lumineux, incarné, vivant, émouvant, magnifique, touchant, troublant, poignant, tendre, poétique, bouleversant. Ce n'est pas exhaustif. Parce qu'au bout d'un moment, je me suis ennuyé à répéter tous ces adjectifs, donc j'ai arrêté. Et certains se retrouvent. Alors, bouleversant et poignant, c'est vraiment c'est une espèce de gimmick critique autour de ce livre. Et en même temps, c'est pas très confraternel de ma part, mais je crois pas que j'aurais fait mieux, parce qu'effectivement, c'est un livre qui appelle les adjectifs, au moins le reste. C'est un beau livre. Et merci à Myriam Majidi de nous l'avoir offert. On va peut-être commencer par le commencement, en vous remerciant de vous être rendu, bien sûr, à l'invitation de la librairie Mola. Le commencement, en l'occurrence, c'est le titre, « Marx et la poupée », qui fait référence à une scène qui a, dès le début du livre, et que je trouve absolument bouleversante, mais je vous laisse le soin de nous en dire plus.
Par rapport au titre ?
Oui.
Comment ce titre a été trouvé ?
Oui, bien sûr, comment ce titre a été trouvé, et surtout à quoi ça fait référence, et qu'est-ce que c'est que ce curieux compagnonnage entre Marx et une poupée ?
Le titre... Alors, Marx, c'est une référence assez évidente à l'engagement politique de mes parents, donc dans les années entre 79 et 86, en Iran, puisqu'ils étaient de pensée marxiste-léniniste. Et puis, la poupée, c'est cette petite fille qui est la narratrice, qui devient ensuite une adolescente, puis une jeune femme. Et la poupée symbolise aussi l'enfance, puisque l'enfance de ce personnage a été complètement impliquée dans l'engagement politique des parents. Donc voilà, de la liaison entre les deux, pour symboliser un peu tout ça.
Et dans les conséquences que ça aura
Les conséquences, c'est l'exil. Oui. Les conséquences de cet engagement politique dans cet Iran des années 80 mènent à l'exil, en France.
Alors, j'avais dit que je vous ferais des compliments, je m'y tiens. Je trouve qu'il y a déjà un obstacle qui est généralement péché mortel, plus que véniel, en pareil cas, que vous contournez très très bien, c'est le fait de faire parler un enfant. Mm-hmm. Très compliqué de faire parler un enfant. Parce que soit vous le faites parler comme un secrétaire perpétuel de l'Académie française, et c'est pas très crédible, soit vous lui donnez un langage de niard, quoi. Et c'est rapidement insupportable. Je pense qu'on compte sur les doigts d'une main dans la littérature française, puisque ce livre est écrit en français, on va y revenir d'ailleurs, l'éducation des registres de langue, on compte sur les doigts d'une main les livres qui parviennent à faire, avec la juste distance, parler en enfant. Est-ce que ça a été effectivement une problématique pour vous ?
Non, pas du tout, parce que je suis quand même restée vraiment enfant. Donc c'était pas du tout un problème pour moi. C'est moi, j'ai du mal à être adulte. Donc non, mais c'est vrai. Donc non, c'était un vrai plaisir d'écrire.
C'est pas une bonne réponse parce qu'il y a des enfants qui ont du mal à faire des rédactions aussi. Hein, donc,
ah oui, bien sûr. Non, mais écrire avec ce point de vue de la petite fille, de la môme, non, ça a été vraiment un vrai plaisir d'écriture, vraiment.
Alors comment est né ce livre-là et au-delà de sa naissance, enfin, du récit de Genèse, on comprend bien comment il naît, on comprend bien qu'il y a des accents autobiographiques très forts. Je dis des accents parce qu'on ne va pas se livrer au traditionnel débat roman, autobiographie, etc. Parce que oui, bien sûr, à partir du moment qu'il y a recréation fuse du réel, il y a du romanesque, par définition. Mais donc, à quel moment vous avez senti l'opportunité, la nécessité peut-être même d'en faire un livre? Et surtout, et je crois que c'est ce qui m'intéresse le plus, parce que c'est ce qu'il y a de plus intriguant dans le livre, un livre, comment vous dire, de forme aussi impure, parce que c'est, je ne sais pas si vous serez d'accord avec ça, mais c'est un livre dont la construction est extrêmement élaborée, ça donne l'impression que ça part dans tous les sens, mais pas du tout. Voilà, comment la forme et la construction du livre vous est venue? Mais commençons d'abord de la naissance du livre, de l'idée du livre même.
L'idée du livre, elle est assez... ça touche à la question de l'écriture, pourquoi on écrit. Ouais. Moi, j'avais été le témoin et le dépositaire de toutes ces histoires qu'on m'avait racontées. Et je pouvais pas supporter l'idée que ça puisse être oublié un jour, tout ça. Des personnages donc comme Abbos, à qui je dédie le livre, ce jeune révolutionnaire qui s'est fait emprisonner et exécuté à l'âge de 19 ans, mon oncle, et puis même mes parents. Enfin, je pouvais pas vraiment... J'avais beaucoup de mal avec cette idée de l'oubli, que ce soit menacé de disparition. Et donc, j'ai eu vraiment envie de laisser une trace, en fait, de toutes ces histoires qu'on m'avait racontées, et surtout de le partager avec les autres. Donc ça a été la première motivation. Et après, bien sûr que j'étais passionnée de littérature, je le suis toujours, et j'avais vraiment envie d'écrire un livre depuis longtemps. Et j'ai voulu travailler avec cette matière autobiographique. Voilà. Après, dans la structure et la forme, j'ai pas réfléchi, en fait, à tout ça. Les histoires me venaient comme des flashs, comme des images. Et donc, à chaque fois, c'est une image qui est à l'origine des chapitres.
Parce qu'il y a une certaine forme de continuité narrative, mais avec des allers-retours permanents et des registres de langue un peu différents. On va y revenir, entre la narration romanesque, le conte, l'autobiographie, etc. Trois parties dans votre livre, que vous appelez des naissances.
Ouais.
Première naissance, deuxième naissance, troisième naissance. C'est aussi à ça que je voulais en venir, qui correspondent à des moments différents de la vie de la narratrice. Voilà, ça, c'est venu comment? Et pourquoi naissance,
d'ailleurs? C'est un livre qui est beaucoup à l'image de ce que de ma personnalité, de ma vie, de ce que je suis. Donc, et c'est pour ça que pour moi, le débat autobiographie fiction, c'est autobiographique, oui. Évidemment. C'est vraiment du vécu. C'est à mon image parce que c'est aussi à l'image de la mémoire. Je pense que la mémoire n'est jamais une ligne qui va d'un point à un autre. On est toujours en train de valser entre le passé et le présent. Voilà. Et après, ces trois naissances, pour moi, je l'ai vraiment vécu comme ça. C'est-à-dire que la première naissance, c'est la naissance d'état civil, voilà, en Iran, en 80. C'est ma date de naissance.
Dans des circonstances, on peut en dire deux mots un peu particulières. Enfin, pas tant la naissance que la vie pré-naissance.
Ouais.
Parce que c'est la première scène du livre. Elle est d'ailleurs, elle donne tout de suite le ton. Ça sera pas... On ne sera pas dans le sucré, ou en tout cas pas uniquement, et même pratiquement pas, puisque la première scène du livre, donc on découvre votre mère, qui vous êtes dans son ventre, vous devez être enceinte de 7 mois, si je me souviens bien.
Voilà.
Comme ça. Et on est en plein dans la révolution iranienne, et en plein, si je comprends bien, de la prise de pouvoir définitive des gardiens de la révolution.
Ah oui, ils étaient déjà au pouvoir en février 1979. Ouais. Le pouvoir a été, enfin, de Khomeini est établi réellement en mars, et moi je suis née un peu plus d'un an après, donc on est dans l'épuration, clairement, on est dans l'épuration de tout opposant, même des gens qui ont soutenu Khomeini, qui constituaient un peu ses bras droits, ont été emprisonnés, exécutés, donc sont vraiment les années noires du régime iranien à ce moment-là. Et donc il y a des manifestations beaucoup, en tout cas dans l'université de Téhéran, et ma mère, parce que révolutionnaire, parce qu'engagée, parce que politiquement impliquée dans l'histoire de son pays, elle se rend à l'université de Téhéran, enceinte de 7 mois, et parce qu'elle devait voir pour témoigner. C'était très important pour elle d'être témoin de ce qui se passait à ce moment-là. Et elle se fait poursuivre donc par les Basiji, qui est la milice que Khomeini a mis en place dès son pouvoir, et qui frappe les étudiants avec des bâtons plantés de clous. Et elle est poursuivie et elle saute du deuxième étage.
Et vous êtes là aujourd'hui, donc tout à fait rassurée.
Eh oui, c'était rock'n'roll l'Iran dans ces années-là. Hein. On ne s'ennuyait pas.
Donc ça, c'est la première naissance, c'est la naissance à proprement parler.
C'est la naissance en Iran,
Une espèce de confort paradoxal de la famille, bon, parce qu'il y a ce que vous venez d'expliquer, c'est une famille d'intellectuels communistes, ce n'est pas forcément idéal, mais enfin, une super bonne idée dans le contexte de l'Iran.
Ah non, ça c'est sûr, ça faisait pas bon ménage.
Mais en même temps, il y a la douceur du foyer, en même temps, il y a la protection de la grand-mère qui est importante.
Ouais, qui est une figure effectivement de protection et qui est aussi une figure de. Qui rappelle quand même l'enfance à la petite fille, qui lui rappelle avant toute chose qu'elle est une môme, qu'elle a besoin de jouer, de garder ses jouets, et qui est un rempart comme un garde-fou à la folie révolutionnaire communiste des parents.
Alors, ça, à quoi je voulais revenir, pardon, en parlant du titre, elle a besoin de garder ses jouets, mais là, ça ne va pas les garder, justement.
Non, elle ne les garde pas parce que ses parents enseignent à la petite fille que la propriété est un vilain défaut. c'est le vol, comme disait l'autre. Et qu'il faut. Et donc, du coup, une fois par semaine, deux fois par semaine, la petite fille donne ses jouets aux enfants pauvres du quartier de Téhéran, pour abolir en elle le sens de la propriété. Et évidemment, c'était une douleur, c'est une douleur très forte pour cette petite fille d'être dépossédée finalement de ce qu'elle a de plus précieux, à savoir quand même les jouets pour un enfant. Et voilà, et donc c'est un rituel qui se passait comme ça, dans cette drôle de maison.
Donc cette première naissance, c'est les années compliquées.
De combat, c'est les années de combat.
Troubles. En Iran, et puis après, la deuxième naissance, c'est est-ce qu'on peut parler de renaissance d'ailleurs, parce que c'est un peu plus compliqué que ça, c'est l'arrivée en France.
C'est l'exil, ouais. La deuxième naissance correspond en fait à l'exil, puisque la famille quitte l'Iran, fuit l'Iran pour survivre, hein, pour rester en vie, et il débarque à Paris en 86. Et là, donc, c'est la naissance de l'exilé, avec en plus cette douleur de la séparation, une nouvelle identité à recréer. Alors, renaissance, je ne sais pas trop, mais je dirais une deuxième naissance qui vient s'ajouter à la première, en fait. Et du coup, il faut essayer de faire avec ces deux naissances. Elles ne coexistent pas forcément très bien au départ. Il y a tout un conflit, notamment linguistique. Quelle langue parler, le persan, le français. Bon, voilà, on est dans ces problématiques identitaires, en tout cas dans la deuxième naissance.
Oui, avec une espèce d'abandon énergique du persan à ce moment-là.
Oui.
Il faudra peut-être attendre la troisième naissance pour qu'il y ait une forme de réconciliation.
Bah, l'abandon du persan, c'est parce que cette petite fille comprend très vite qu'il n'y a pas de place pour sa culture d'origine dans ce pays. Que pour s'intégrer, je déteste ce mot, mais je l'emploie parce que c'est dans ce contexte-là, c'est vraiment le mot intégration qui lui est venu, qui est venu dans l'esprit de la petite fille. Pour s'intégrer, il faut oublier d'où elle vient. Voilà, pour pouvoir rentrer dans le moule français. Et c'est une véritable violence, et c'est pour ça qu'elle rejette à son tour violemment. C'est-à-dire que la violence qu'elle subit, elle la fait subir à nouveau comme en réaction sur son origine persane, sur sa langue.
Alors, cette partie du livre plutôt, qui s'intitule Deuxième naissance, est recentrée, peut-être plus que le premier encore, sur le personnage de la narratrice, de la petite fille. Les parents sont toujours très présents, il y a même des pages très belles sur le père et sur son déclassement social lié à l'exil, bien entendu. Mais quand même, toute l'énergie narrative, elle est autour de l'énergie de cette petite fille qui veut se faire une place dans le monde, une chambre à soi, comme disait l'autre. Quelque part en France.
Oui, parce qu'en fait, les parents, quand ils arrivent en France, les parents sont effacés ils n'ont plus de place, n'ont plus d'identité, ils parlent très mal cette nouvelle langue. Et la petite fille, parce qu'elle est petite, elle apprend beaucoup plus vite, et elle est pour eux le moteur de l'intégration. Ça passera par elle. D'où le chapitre « Les fautes de français ». La petite fille, dans ce chapitre, rédige les lettres administratives pour ses parents. Elle a absolument aucune envie de faire ça, mais elle est obligée parce que ses parents ne peuvent pas le faire. Et bref, tout passe, c'est-à-dire que la France passe par la petite fille. Et c'est pour ça que il y a une focalisation sur ce personnage-là et finalement un effacement des parents et surtout de la mère qui semble vraiment se diluer comme ça dans les eaux du passé, dans sa nostalgie de l'Iran. Elle a une existence presque fantomatique et le père qui est absent parce qu'il travaille 12 heures par jour. Voilà, donc ça me fait toujours rire quand on dit que ceux qui viennent d'arriver en France sont des paresseux qui veulent profiter des acquis sociaux. Moi, mon père, les 7-8 premières années, je ne l'ai jamais vu, il travaillait comme un forçat. Voilà, je pense que c'est important de le dire aussi.
Absolument. Et alors là, normalement, les récits de l'exil, ça se termine là. Non pas que ce soit un genre en soi, mais un peu quand même. Hein. C'est vrai qu'il y a beaucoup et des choses tout à fait estimables et honorables, et même plus parfois. Mais normalement, ça se termine là. Et ça se termine par le nouveau pays et la nostalgie de l'ancien. Et vous, ça se termine pas là.
Non.
C'est ce qui fait toute la. Ouais, vous avez vu, je vous ai vu. C'est ce qui fait tout le prix du truc.
Subtilement mené, tout ça. je suis très admiratrice.
Mais donc troisième partie
qui vient. Le retour.
Qui vient un peu compliquer les choses.
Ah, maintenant justement.
Qui en même temps les libère.
Oui, les libère, parce qu'en fait la troisième naissance, c'est le retour au pays, c'est le retour à l'origine. Et c'est la réconciliation, en fait, finalement. C'est-à-dire qu'au lieu d'être toujours tiraillé entre la part française, la part iranienne, etc., qui sont en conflit dans ce personnage-là, le personnage décide de retourner en Iran. Et ce qui est important de dire, c'est que ce retour se fait par le biais de la littérature, par un sujet de recherche sur la littérature persane qui amène la narratrice, qui est devenue une jeune femme de 23-24 ans, a retourné en Iran pour trouver des livres, les livres interdits de Soder et Doyat sur lesquels elle avait décidé de travailler pour son mémoire de maîtrise. Et donc ce premier voyage, c'est comme un voyage initiatique aux origines, à la terre natale. Et elle se réconcilie en fait avec... En retournant au pays, elle se réconcilie avec sa double culture. C'est ça qui est intéressant.
Il me semble qu'il y a une double articulation. C'est-à-dire qu'il y a à la fois, effectivement, le retour vers le pays natal, et il y a chez vous, chez votre narratrice, c'est les mêmes, il y a quelque part, me semble-t-il, quelque chose autour d'un plaisir presque sensuel de l'exil. Mais peut-être vous allez me gifler, vous avez vécu à Pékin longtemps,
ouais.
Vous avez vécu en Turquie. Il y a quand même quelque chose qui peut-être tourne autour de ça. Le goût d'être ailleurs, pour
le goût
voir,
de l'errance,
pour mieux voir
ouais.
L'endroit d'où l'on vient. Que ce soit le pays natal ou le pays d'adoption ou autre chose encore.
Moi, je pense que l'exilé devient très vite un errant. Il erre en fait. Il y a l'errance qui vient qui vient accompagner en fait l'identité de l'exilé. Donc, je sais pas si je suis partie vivre à l'étranger pour mieux voir d'où je venais. Je sais pas, mais plutôt pour prendre vraiment du recul, en tout cas avec cette dichotomie, l'Iran, la France, l'un ou l'autre, l'un et l'autre. Et ça a été une libération aussi de pouvoir juste vraiment m'extraire de ça.
Alors, vous êtes un écrivain français, c'est le moment de le révéler ici à tous. Vous êtes-vous un jour, peut-être même avant d'écrire, posé la question de savoir si vous pourriez devenir un écrivain persan?
Ah non, c'est pas possible. Ouais. C'est pas possible. Je peux pas. Déjà, j'ai même pas envie d'écrire en persan. Hein. Ouais. Ça m'intéresse pas du tout. J'ai pas. Moi, j'ai découvert le français avec sa littérature. Je suis tombée amoureuse d'écrivains qui écrivaient en français. Et donc, pour moi, l'écriture ne peut se faire qu'en français. Ça me paraît. Inenvisageable de me mettre à apprendre encore à fond le persan pour pouvoir écrire en persan. J'ai pas du tout un rapport littéraire à la langue persane, en fait. J'ai un rapport affectif, j'ai un rapport familial, mais pas du tout un rapport littéraire.
Si vous appreniez que ce livre, ce qui paraît un peu difficile, serait traduit
en persan,
en, intéressant.
Oui, mon oncle, celui qui est le personnage de l'oncle Saman, mon oncle m'a proposé de le traduire en persan, parce qu'il est bilingue, français-persan. Donc ça, ce serait super, ouais. Mais ce serait merveilleux.
Vous le feriez
pas. J'ai pas, en fait, moi, j'ai un niveau très faible en persan au niveau de l'écriture et de la lecture. Je parle très bien le persan à l'oral, il n'y a aucun problème. Vraiment, couramment. Mais par contre, parce que ce n'est pas le même alphabet, j'ai beaucoup de mal à le lire et à l'écrire. Et je ne suis pas à l'aise, en fait, dans la lecture et l'écriture. Donc, il faudrait que je travaille vraiment très dur pour pouvoir atteindre un niveau littéraire et pouvoir le traduire.
Alors, puisque vous n'êtes pas à l'aise, restez-le. Je vais vous demander maintenant le nom de vos amoureux. Puisque vous venez de nous dire que vous êtes tombée amoureuse d'écrivains français.
Ah, d'accord, j'avais peur.
Mais non.
Je pensais que vous vouliez le nom des amants dans le chapitre Ayom.
En même temps, vous me dites ce que vous voulez. Hein.
J'ai eu peur. Duras.
Ah oui.
Bah, évidemment. D'ailleurs, j'ai envie de citer qu'elle, en fait.
Non, mais c'est bien. Déjà.
Elle a balayé tout le reste. Non, bien sûr, Duras. Au début, avant Duras, je l'ai découvert tardivement. Avant, c'était bien sûr Camus, Gary, Romain Gary, beaucoup. Encore aujourd'hui, c'est un vrai guide. Avant eux, c'était Azouz Begag, voilà.
Ouais. D'ailleurs, dans le dossier de presse, là, enfin, pas le dossier de presse, mais les différentes critiques que j'ai pu voir de votre livre, le nom de Romain Gary, qui, c'est vrai, est un nom un peu qui revient facilement hein, quand on ne sait pas quoi dire et qu'on a envie de dire que c'est bien, on dit Romain Gary. Mais le nom de Romain Gary vient et ça ne me paraît pas tout à fait illégitime.
Mais surtout le Gary de la vie devant soi.
Le Gary de la vie devant soi.
Ouais, qui m'a beaucoup marqué.
Le Gary qui est pas Gary, qui est Émile Ajar. Le Gary d'une espèce de fantaisie noire.
Ouais, qui est très beau. Ouais. Donc voilà, c'est ça, c'est un peu ça, les écrivains.
Alors, puisqu'on en est à révéler que j'ai bien lu les articles vous concernant, je vais continuer. Moi, je trouve qu'il y a eu un très bel article dans un magazine qui n'est que sur Internet, je crois, qui est En attendant un ado. Mais je dis
oui, très beau.
Sébastien. Dans lequel, mon confrère disait, et je trouve ça très vrai, que ce livre raconte plus qu'une vie, il raconte surtout des émancipations successives. Mmh. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ?
Oui, tout à fait.
Moi, ça me paraît... Est-ce que c'est comme ça que c'était conçu, ou est-ce que ça s'est imposé à vous au fur et à mesure de...
Non, ça c'est vraiment... l'écriture, en fait, est venue après. C'est-à-dire que moi, je m'étais déjà apaisée, réconciliée, et j'ai eu envie d'écrire ce livre pour témoigner de ça. Hein, pour témoigner de ça. Donc, l'écriture est venue après. L'écriture est venue comme parfaire ou sublimer, je ne sais pas comment dire ça, cette réconciliation qui était déjà intérieure, qui était déjà en moi. Bien sûr, c'est vraiment une émancipation, des émancipations successives. On le voit au bout, à la fin du roman, il y a quand même une femme qui, en tout cas, se pose la question si, enfin, aujourd'hui, elle est libre.
Ça, je ne sais pas, mais elle est devenue écrivain, non ?
Donc elle est libre.
Ouais.
Il y a quand même un lien entre l'écriture et la liberté, clairement.
Vous vous sentez comme telle aujourd'hui, ou peut-être vous êtes toujours senti comme telle, mais vous sentez pleinement que vous avez ouvert les portes sur un autre pays, un autre horizon tout au moins, qui est pleinement celui de la littérature.
Ah, totalement, c'est vraiment la vraie patrie, elle est là, elle est vraiment pas ailleurs. Il faut même pas, je pense, se fatiguer à essayer de trouver une patrie autre. C'est la langue, c'est la littérature, clairement, ouais.
Alors, on évoquait aussi à votre propos, et c'est tout aussi vrai, je crois, que c'est un livre... Je trouve que je ne l'ai pas assez dit, j'employais l'expression qui est un peu jargonesque, si vous me passez l'expression, de formes impures, mais je trouve...
Oui, ça, je n'ai pas trop compris, il faudrait qu'on revienne là-dessus.
Hein. Non, ça va être un peu long.
Impure, c'est fort, quand même.
De l'autobiographie, de la narration romanesque classique...
Une forme bâtarde.
Et en même temps, des choses qui relèvent du conte, c'est ce qui est très... extrêmement importante. C'est pour ça que ça ressemble un peu au Gary qui écrit sous le pseudo d'Émile Ajar. Il y a des choses qui relèvent d'une espèce de fantaisie, de conte, de conte persan, en l'occurrence, évidemment. Et c'est pour ça que je parlais de forme impure. Et il y a dans votre livre des oscillations constantes entre la France et l'Iran, bien entendu, entre l'enfance, et en général, quand on parle de récit d'enfance, ça reste un récit d'enfance, et la maturité, là, ça reste pas un récit d'enfance. On retrouve la narratrice jusque dans son grand âge, c'est-à-dire 25 ans. Et puis entre le conte et l'autobiographie, entre une certaine forme d'onirisme, peut-être ça vous parlera plus.
Oui, bien sûr.
Et puis la description régulière d'événements de votre vie. Voilà. Ces oscillations constantes, vous en avez conscience ?
Oui, parce que c'est des oscillations, c'est le flou identitaire aussi. Ouais. C'est-à-dire que, étant exilée, j'ai toujours eu beaucoup de mal à me définir, à savoir d'où je viens et où je vais. Et donc, il y a cette errance qui s'est mêlée aussi, qui fait que j'ai pu me sentir un peu chinoise, un peu turque, un peu indienne, un peu partout où je vais, voilà. Et je pense que l'écriture est venue témoigner de ça, témoigner de cette difficulté à choisir aussi une forme, mais comme on choisirait un seul nom ou une seule patrie, voilà, une seule nationalité. Je crois que vraiment les identités sont multiples. On peut être, il y a des lecteurs qui viennent me voir et qui me disent, mais nous on est franco-français et on s'est vraiment reconnu dans ce livre, alors qu'on n'a pas de double origine, de double culture, et parce que je pense que fondamentalement, vraiment, les identités sont multiples. Nous n'en avons pas qu'une, et j'ai voulu montrer par la forme littéraire choisie de ce roman que l'oscillation est partout présente. Voilà, on tangue, on balance toujours d'un bord à l'autre, et même de plusieurs bords. Il n'y en a pas que deux, il peut y en avoir trois, quatre, enfin, c'est multiple.
Et est-ce que le travail de l'écriture, c'était aussi de temps en temps de donner un coup de barre à gauche, un coup de barre à droite, si j'ose dire, c'est-à-dire pour aller un peu plus dans un sens, un peu moins dans l'autre?
Moi, la seule chose qui donnait...
Maintenir l'équilibre.
Mais non, parce que... Alors, oui, on peut voir cette métaphore-là, mais pour moi, la seule chose qui maintenait un peu le cap, c'est l'émotion. C'est-à-dire qu'à chaque chapitre, j'avais vraiment envie de transmettre une émotion, de faire partager mon émotion avec mon lecteur anonyme, inconnu, parce que je pense vraiment que c'est ce qui nous maintient en vie et qui nous rend humains. C'est l'émotion, et c'est notre plus belle part d'humanité. Ça a été un vrai guide dans chaque chapitre, voilà. Ouais. L'image et l'émotion.
Alors, je faisais une liste, d'ailleurs, et ça ne sera pas une question, parce que si c'est une question, c'est la plus bête du monde.
Mais, posez-la, allez-y.
Non. Mais je faisais une liste d'adjectifs qualificatifs qui vous étaient associés tout à l'heure. Je ne crois pas avoir lu et donc cité l'adjectif drôle. Votre livre est plein d'humour, plein de drôlerie. Alors, je ne vais pas vous dire, alors vous êtes drôle. Donc, c'est pour ça que je
suis super drôle. Hein.
Vous êtes super drôle.
Ah, oui. Demandez à mes amis.
Ah ben, les gens là sont vos amis. En réalité. Je me disais effectivement qu'il y avait une forme de complicité qui relevait de ça. Mais je trouve que c'est ce qui évite le piège du pathos, parce que c'est aussi un des très gros pièges de ce genre de récit.
Voilà, l'exilé, la tragédie de l'exil, tout ça, la lamentation, bien sûr.
Une certaine forme de vulgarité littéraire à laquelle je trouve vous échapper. Et d'ailleurs, à ce propos, qu'est-ce qu'il y a eu de plus difficile dans l'écriture du livre ? Maintenant que vous l'avez écrit, et même plus.
Le finir. Ouais. Vraiment finir. Ouais. Finir, et puis mon éditeur peut témoigner de ça, arrêter de le modifier. Voilà, c'était compulsif chez moi. Je devais tout le temps modifier.
Ça
puis,
va avec la forme impure, ça. Mais,
je ne m'arrêtais plus, et un jour, il m'a dit, ça suffit maintenant.
Ouais,
voilà. D'un ton très sévère. Et non, ça, c'était très de mettre un point final. Voilà, j'ai toujours été un peu menacée par ce qu'on appelle le drame de l'inachèvement. Voilà, j'entreprenais des études, je les terminais pas, j'allais vivre dans des endroits, j'apprenais pas la langue. Il fallait toujours qu'il y ait quelque chose d'inachevé. Et donc, évidemment, pour ce livre aussi, c'était très difficile. Très facile de le commencer, d'ajouter des chapitres les uns aux autres, mais alors vraiment de le terminer, ça a été très dur.
Et c'est pas vous qui avez su quand ça se terminait. C'était que votre éditeur, à un moment donné, a considéré que c'était le bon moment.
Voilà, il m'a grondé.
Ouais.
Il a eu raison, parce que je pense que je serais encore en train de le modifier. Hein. Je m'étais donné un an de modification.
Il y a une deuxième étape.
Bon, il fallait vraiment stopper ça, quoi.
Ça va sûrement faire plaisir à votre éditeur. C'est l'édition poche. Vous verrez, vous pourrez encore modifier des trucs.
Il m'en a pas parlé.
Ouais. Non, alors, je reviens un peu en arrière.
C'est affreux. Je me plaindrai.
Avant ces vicissitudes éditoriales, à quel moment dans l'écriture du livre vous avez senti, si tant est que vous l'ayez senti, peut-être jamais, après tout, ou peut-être dès le début, ou, je ne sais pas, que... Vous le teniez, quoi. Vous teniez la voix, VOIX et VOIE aussi, que vous teniez la musique, parce que je trouve que c'est un livre de musique, beaucoup. Voilà, ça marchait.
Le plaisir à l'écrire, le plaisir, c'est vraiment tout bêtement.
Le plaisir qui est venu tout de suite ?
Oui, qui est venu à Pékin quand j'ai écrit les 20 premières pages. Ouais. Comme ça, c'est sorti. Après, pendant 2 ans, je n'ai plus du tout touché à ces 20 pages. Elles sont restées comme ça, à sommeiller, en gestation. Et j'ai pris énormément de plaisir à écrire juste ces 20 premières pages. Et puis, je l'ai lu à une amie avec qui je vivais à Pékin, qui était ma colocataire. Et elle a pleuré quand je lui ai lu ces 20 premières pages. Et je me suis dit, ouais, là, c'est intéressant. J'ai réussi à transmettre une émotion. Et donc, il faut continuer.
C'est pour ça que vous êtes arrêté pendant 2 ans.
Exactement. Le drame de l'inachèvement. Non, mais ça pas. Non, mais de toute façon, je suis un tissu de paradoxe, pardon. Un tissu de contradiction. Donc, j'ai vu que c'était agréable à écrire et qu'en plus, j'avais transmis une émotion. Je me suis dit, bah, on arrête. Parce que c'est trop. C'est intense. Ça va me demander beaucoup trop d'efforts. Et donc, pendant 2 ans, j'ai bourlingué, j'ai voyagé, tout ça. Mais j'y cogitais chaque jour, vraiment. Et j'avais tout en tête, en fait. Et c'est exactement comme la narratrice, la petite fille, qui pendant des mois garde le français dans sa tête. Elle refuse de le parler, de l'exprimer aux autres. Et d'un coup, poum, tout sort. Et ben, c'est exactement ce qui s'est passé avec ce roman. C'était en gestation pendant 2 ans. Et en 2 mois, à Istanbul, avant de quitter cette ville dont j'étais folle amoureuse, j'écris 7 à 8 heures par jour et je termine le manuscrit.
D'accord.
C'est bizarre, mais c'est comme ça. Je ne suis pas du tout disciplinée.
C'est votre premier livre, on est d'accord.
Oui.
Ouais. Est-ce que vous avez toujours su que vous en écririez ?
Bien sûr.
Oui, bien sûr.
Ah oui, je savais ça.
Vous saviez ni quand ni comment.
Je savais que j'écrirais un jour un livre.
Et que ça serait ça, quoi. Enfin, que ça serait.
Et que ça serait. Non, j'étais sûre. J'étais.
Un essai de sociologie.
Pas du tout. J'étais sûre qu'un jour j'écrirais un roman autobiographique sur l'histoire de mon enfance. Ouais. C'était évident.
Est-ce que vous avez lu des livres? Alors, c'est pas du tout pour se, comment dire, pour induire un rapport de compétition qui n'a pas lieu d'être en plus, mais des livres autour de l'exil. Je pense aux livres de Laura Alcoba, de cette écrivaine géorgienne qui publie chez Sabine Vespieser, son nom va me revenir, à moins que vous le trouviez avant moi. Je pense aussi à un très beau livre chez Sabine Vespieser autour de l'enfance iranienne d'une jeune femme qui est la femme de l'écrivain Éric Laurent, qui a publié un livre sur son enfance en Iran et son arrivée en France. Est-ce que vous aviez lu, non pas nécessairement ces livres-là, mais des choses autour de la question de l'exil et de l'arrivée en France, puisque c'est le cas des trois auteurs que je viens de...
Non.
Non.
Oui. J'ai lu, bien sûr, Persépolis de Marjane Satrapi.
Ah oui, bien sûr, il y a ça aussi.
Ça m'a complètement emportée, enchantée, voilà. J'ai pas eu envie après de lire autre chose sur l'Iran parce que je trouve qu'elle a vraiment donné une forme et une voix à son exil iranien absolument géniale. Et en fait, non, je suis pas très intéressée par. Je devrais peut-être, je sais pas, mais
non,
ça
je
m'a.
Pense que, je j'ai pense pas que si ça. Si vous l'auriez trop fait, vous auriez jamais pu écrire.
Je livre. Pense aussi qu'il y a ce risque. Par contre, je me suis beaucoup inspirée du cinéma iranien que j'aime beaucoup, mais parce que c'est l'image, c'est un autre art. C'est pas la même chose. Et c'est vrai que je suis allée aussi beaucoup, voilà. Après, moi, je lis beaucoup la poésie persane, mais c'est pas la littérature d'exilé iranien, voilà.
Est-ce que vous avez lu aussi peut-être, mais pour ce livre-là spécifiquement, des livres d'histoire autour de l'histoire de la révolution islamique, enfin de la révolution, non, pardon, iranienne, devenue révolution islamique.
Alors, si vous voulez, à chaque fois que je vois mes parents, donc depuis 36 ans, hein, j'ai 36 ans, il est absolument impossible qu'on n'aborde pas ce sujet-là à table. Donc, si en plus je me mets à lire à côté et à aller regarder des documentaires, ben, j'explose, hein, je deviendrai complètement dingue. Donc, il est toujours question de ce sujet à table depuis 36 ans. Voilà.
Ça ne va pas s'arranger, là ?
Je ne pense pas du tout que ça va s'arranger. Vous voulez dire à cause du livre ?
À cause ou grâce, mais...
C'est un grand mystère, ouais. Je sais pas. Moi, j'ai très envie de retourner en Iran.
Ouais.
J'ai fait une émission sur RFI Iran, où je crois que j'y suis allée un peu trop corsée, mais j'ai vraiment... En fait, j'ai pas du tout parlé de littérature, j'ai parlé que de politique.
Ouais.
J'ai voulu parler que de ça, et j'ai même balancé des slogans en disant qu'il faut se révolter, c'est un message à la jeunesse, enfin non... Bon, je suis allée un peu loin.
Ça va être un peu chaud pour le visa.
Et ce qui est très intéressant, c'est que s'il y a une émission de radio que les gens du gouvernement écoutent, c'est bien RFI Iran.
C'est pour ça que vous l'avez fait, d'ailleurs.
Ouais. Je voulais un peu jouer avec le feu. Mais Non, je pense pas que ce. Mes parents, je pense, peuvent y retourner parce qu'ils ont arrêté leurs activités politiques en 86. Donc voilà. D'ailleurs, ils sont retournés assez souvent en Iran. Bon, maintenant, après ce livre, je pense pas que ça posera de problème. Moi, au pire, ils vont faire un interrogatoire, peut-être quelques semaines en prison. Ça vendra le livre beaucoup plus. Benoît sera content.
Ah oui, ça serait formidable. Ouais.
Il y aura des campagnes de soutien à Maria Majidi. Finalement, je crois que je vais y aller cet été.
Est-ce que votre livre aujourd'hui pourrait être, traduit, il va l'être, pourrait être lu et diffusé en Iran ?
Ben, sous le manteau, oui. Sous le manteau, de manière officielle, non. Non, ça c'est sûr, c'est pas possible.
Mais est-ce qu'il y a une économie souterraine du livre en Iran ?
Bien sûr.
Fait que sous le manteau, c'est quand même un très large manteau.
Ah bah bien sûr, d'ailleurs j'ai une anecdote très drôle à raconter là-dessus. C'est qu'en fait, donc pour mon mémoire sur Hedayat, mon mémoire de littérature, j'avais besoin de livres de Hedayat, donc romancier iranien des années 30 à 50 en Iran, un des premiers romanciers modernes.
Pardonnez-moi, qui a été retraduit en français.
Bien sûr, et édité chez José Corti, et qui est mort en 52 à Paris. Il a vécu de nombreuses années à Paris. Et en fait, donc, j'avais pas la possibilité d'avoir les ouvrages de Hedayat en persan. Donc, je suis aussi retournée en Iran pour cette raison. Et je voyais donc des librairies officielles, et mon oncle m'a dit, tu vas surtout pas demander les bouquins de Hedayat, qui sont des bouquins interdits dans ces librairies officielles devant l'université de Téhéran. Donc, tu vois, il y a des mecs, là, devant, ils ont des petits... sur un petit étalage, comme ça, ils avaient posé quelques livres de recettes de cuisine, de les beautés de la Perse antique, etc. Et il me dit, tu vas demander à un de ces hommes. Je dis, mais attends, mais tu as vu les livres qu'ils vendent, qu'est-ce que je... Fais-moi confiance, va, et tu lui dis que tu veux des bouquins de Hedayat. Bon, je m'approche d'un de ces bonhommes qui était là... Et je lui dis, bonjour, je cherche les livres de Hedayat. Et là, il me regarde comme ça, très sérieusement, il s'approche de moi et me dit, tu veux quoi de Hedayat ? Vas-y, tu veux quoi comme titre ? Et j'avais l'impression d'acheter de la drogue, quoi. Et je lui dis, je voudrais La Chouette aveugle. Hein. Donc je lui dis les titres, il me dit, ok, dans 20 minutes, je reviens, tu bouges pas. Et il s'en va, je sais pas où. Il revient avec un petit paquet entouré de papiers journaux. Et il y avait tous les livres que je voulais imprimer, vraiment, mais on sentait, non, à l'arrache, avec des taches d'encre, c'était relié limite à la main, enfin, on avait vraiment l'impression que ça a été fait vraiment dans l'urgence et dans la rapidité. Et je l'ai payé, et j'avais mes bouquins comme ça. C'est pas mal, hein, comme anecdote, hein.
Est-ce que, j'imagine que... maintenant que le pli est pris, si j'ose dire, l'écriture est donc votre nouvelle résidence. Mais est-ce que ça pourrait être une écriture qui se diversifie ? Par exemple, ce livre, moi, là, je le vois bien au cinéma. Je voudrais peut-être...
Oh, j'adorerais.
Ouais. Est-ce que vous pourriez écrire pour le cinéma ? Est-ce que vous pourriez écrire pour le théâtre ? Il y a un certain sens des dialogues dans le livre, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Et c'est aussi un compliment. Il est tout aussi sincère que ceux qui ont précédé. Et puis, bien sûr, le roman, les nouvelles. Enfin, voilà. Où vont vos envies aujourd'hui en matière littéraire, bien sûr ?
Alors, une adaptation cinématographique, j'en rêve, évidemment. J'ai en tête un deuxième roman, mais qui sera très différent de celui-là, justement, dans l'écriture, où on n'aura pas du tout affaire à des chapitres brefs, comme ça, construits sur une image, une émotion, et ça va être quelque chose de beaucoup plus focalisé sur un personnage qui sera le personnage de ma grand-mère paternelle, cette fois-ci, et non pas la grand-mère maternelle qui est dans ce roman-là. Voilà.
Merci infiniment.
Merci à vous.
D'avoir été avec nous ce soir. Et puis voilà, si vous n'avez pas encore lu Marx et la poupée aux excellentes éditions Nouvelle Attila, eh bien vous avez bien de la chance parce qu'un grand bonheur vous attend. Merci.
Merci. Au revoir.